Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir dans l'émission Par ici les sorties. C'est l'émission de Radio Rancière dédiée à l'actualité culturelle. Or, l'actualité culturelle ne se résume pas au théâtre, au cinéma, aux expos. Il est possible de se cultiver à la maison en ouvrant un bon livre, par exemple. Et ça tombe bien parce que j'en ai un sous la main. Un livre qui ne manque vraiment pas d'intérêt ni de séduction. Au cœur de la guerre de Vendée, au lieu et grande figure, un ouvrage bilingue, français-anglais, publié aux éditions Beaufort et dont l'auteur me fait face. C'est avec lui que je vous propose de passer la prochaine demi-heure sur les ondes de Radio Rancière. Paul Bridier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des services culturels de la ville de Chartres, mais aussi et surtout, en l'occurrence, l'auteur de cet ouvrage consacré à la guerre de Vendée. Un ouvrage superbement illustré, qui se lit d'une traite et qui, je dois le dire, est fort bien écrit. Je vais, Paul, si vous me le permettez, en lire à nos auditeurs les premières lignes.
Avec grand plaisir.
C'est possible, allons-y. Alors, la tête de chapitre, c'est l'étincelle au cœur. C'est un relief de plaine qui repose la vue, un pays de bocage où domine le silence, une région du cœur qui aime les secrets. Les hommes occupés ici aux bêtes et aux labours ne cherchent pas la guerre. Dans les cours de ferme et les places des villages où se retrouvent les femmes et s'égaient les enfants, c'est à la vie simple, au labeur, à l'entraide qu'on donne ces journées. Des chapelles et des calvaires égrenés en nombre par de saints missionnaires et honorés de paroisse en paroisse désignent une terre d'humble fidélité. Les moulins qui se font signe au sommet des collines témoignent d'une terre où le travail du jour se fait pain quotidien. C'est très beau, c'est un poème en prose pour commencer ce livre.
À la Peggy, ça parlera au Chartrain.
À la Peggy. Alors, il faut dire que cet ouvrage, évidemment, vous y avez mis de l'érudition, mais vous y avez mis surtout, je pense moi, du cœur, parce que vous êtes natif de Thouars, qui était un haut lieu des guerres de Vendée.
Effectivement, on n'oublie pas la terre de son enfance, et c'est un peu un hommage d'ailleurs que je veux rendre, moi, à toute cette histoire vendéenne qui m'a beaucoup bercé. Moi, je suis originaire de cette frange de la Vendée militaire dans le Thouarsais, dans l'actuel Poitou, qui est un lieu emblématique, puisque c'est à cette bataille de Thouars, où je suis né, que la guerre de Vendée se développe, quitte son socle d'origine pour s'étendre plus loin et pour faire trembler la République publique toute naissante.
Oui, elle est allée très très loin. On dit même d'ailleurs que finalement, les Vendéens auraient pu gagner s'ils n'avaient pas eu ce souci de toujours revenir finalement à leur terre.
Hein. Effectivement, on n'a pas affaire à des guerriers professionnels, on n'a pas affaire à des soldats. C'est un peuple en sabots, c'est un peuple en haillons, c'est un peuple qui a sa dignité paysanne et qui donne sa priorité à cette vie, comme on vient de le décrire il y a un instant, à cette vie simple, à cette vie quotidienne, et qui tout à coup voit que cette vie va être chamboulée, va être perturbée. On se trompe quand on pense que la Vendée était rétive aux idées nouvelles. Liberté, égalité, fraternité, c'est plutôt bien accueilli en Vendée. Mais au moment où ils entendent liberté, égalité, fraternité, ils voient des choses différentes. Face à la liberté, ils voient leurs prêtres mis en prison et sommés de faire allégeance à la République.
Il fallait prêter serment.
Il fallait prêter serment. C'est le déclencheur, parmi d'autres, de ce soulèvement vendéen. Quand ils entendent égalité, ils se rendent compte que c'est l'égalité face à la conscription militaire, levée en armes. La République nouvelle déclare la guerre à l'Europe et il faut lever 300 000 hommes. Jusque-là, les nobles avaient cette fonction-là de payer l'impôt du sang et de défendre la patrie sur les marges du royaume. Aujourd'hui, chacun est appelé à le faire. Et ça, les Vendéens le refusent. Parce que verser le sang impur, comme le chante la Marseillaise, ce n'est pas ce qui leur parle, ce n'est pas ce qui les anime. Et puis, liberté, égalité, fraternité enfin. Ça sonne à leurs oreilles d'une façon particulière quand le slogan s'arrête avec fraternité ou la mort. Là, les Vendéens ne comprennent pas. Ils étaient habitués à cette solidarité villageoise, rurale, et les voilà tout à coup face à une loi des suspects, face à des biens d'église qui ont été saisis, qui deviennent biens nationaux, qu'achètent les bourgeois des villes et qu'eux ne peuvent pas acheter. Et donc, tout de suite, ils se trouvent mis au rebut de cette société nouvelle qu'on leur promet. Donc, liberté, égalité, fraternité, ça résonne volontiers à leurs oreilles, mais ce qu'ils voient ne correspond pas à cette réalité nouvelle. D'où cette insurrection qui embrase différents villages sans que les choses soient concertées, sans que l'alerte soit donnée par des chefs, mais au contraire par le peuple.
Oui, c'est le peuple hein, qui va dans les cours de château, qui va dans les gentilhommières et qui frappe aux portes. Et
exactement. On voit se réunir sur les villages les hommes, et parfois même encouragés et poussés par leurs femmes, qui voient que les troubles commencent à entrer dans leur village, dans leur paroisse, et qu'on ne peut plus vivre cette vie naturelle qu'on vivait jusque-là. Et c'est le moment donc de cet embrasement, qui est un embrasement du cœur, pour reprendre l'expression que vous employiez tout à l'heure, qui n'est donc pas une révolte, une guerre civile.
On n'est pas dans un combat idéologique.
Exactement. On est dans quelque chose qui touche vraiment à des racines, à des habitudes de vie et à une foi, ne nous le cachons pas. C'est-à-dire que la Vendée a été réévangélisé 70 ans avant par le père Louis-Marie Grignon de Montfort, un prêtre dont Jean-Paul II a repris la devise, totus tous, tout à toi, qui était un prêtre de feu, qui a lancé beaucoup de missions, qui a étendu l'évangélisation de ce grand ouest, encore aujourd'hui chrétien. Et donc, on tient à ces solidarités naturelles, humaines, religieuses, paroissiales. Et c'est ce qui fait que ceux qui ne voulaient pas la guerre, finalement, vont retourner leur faux et vont se lancer dans ce combat sans plan de bataille, ouais, sans stratégie initiale, et même avec, pour répondre à votre question de tout à l'heure, avec le sentiment que chaque soir, il faudra rentrer chez soi, parce qu'il faut s'occuper de la maison, parce qu'il faut s'occuper des enfants, ouais, oui, parce qu'il faut s'occuper du champ. Donc, on n'a pas affaire à des conquérants, d'où le fait qu'à un moment, effectivement, après toi, où cette insurrection qui devient une épopée, au moment où elle aurait pu s'orienter vers Paris et peut-être avoir des retentissements politiques immenses, ce peuple-là n'est pas dans cette stratégie de conquête, mais dans cette stratégie de défense de chez soi. Ils ont repoussé l'ennemi hors de leurs frontières, et donc les voilà qui rentrent chez eux. Et c'est ce moment qui est choisi par la République pour frapper, et frapper extrêmement durement.
Voilà, c'est-à-dire qu'on parle vraiment là... Parfois, en tout cas à partir de 1793, de quasi-génocide, il y a une volonté d'éliminer
tout à fait
la race vendéenne. Le mot est utilisé.
Il est employé. On est effectivement, et c'est en ça que cette histoire nous invite pas tant à regarder vers le passé, mais aussi à regarder vers l'avenir, que ce n'est pas un travail de simplement mémoriel ou pour essayer de désigner des responsables. C'est un travail aussi de mémoire, au sens où sans souvenir, il n'y a pas de pardon, et sans pardon, il n'y a pas de réconciliation possible. Donc c'est un livre aussi de réconciliation nationale pour que la vérité soit faite sur ces premiers instants de la République. Et effectivement, la Vendée vit plusieurs mises à mort. Une première mise à mort qui est donc cette guerre de Vendée. Elle dure 9 mois, de mars 1793 à décembre 1793. Il y a d'abord un printemps des victoires, puis un automne des défaites. Mais une fois que la République sent monter le danger, elle intervient et le calme est fait, avec des faits de guerre, mais aussi des exactions déjà terribles. Ça, c'est la première période, elle est essentielle. Mais à ce moment, justement, où les choses se calment, se tassent, c'est le moment d'une seconde mise à mort, celui des colonnes infernales, celui de la décision prise en haut lieu, les documents en attestent et existent. La décision est prise par la jeune République d'éliminer la Vendée et d'éradiquer effectivement la race vendéenne, ce qui correspondra à des exterminations terribles qui concernent non seulement les dits rebelles, mais aussi ceux qui dans la population vendéenne serait plutôt favorable à la révolution.
Je me permets pourtant, juste de citer l'exterminateur Thurot, le chef des colonnes infernales. « Mes colonnes ont déjà fait merveille. Pas un rebelle n'a échappé à leur recherche. Si mes intentions sont bien secondées, il n'existera plus dans la Vendée sous 15 jours ni maison, ni subsistance, ni armes, ni habitants que ceux qui, cachés dans le fond des forêts, auront échappé aux plus scrupuleuses perquisitions. »
Oui, alors justement, c'est en ça qu'il est utile de tourner de nouveau les pages de cette histoire, puisque c'est la troisième mise à mort qu'a subie la Vendée. C'est après la guerre de Vendée, après le génocide perpétré par les colonnes infernales, c'est le mémoricide, c'est l'oubli, c'est l'ensevelissement savant de toute cette histoire. Et effectivement, il est important de se souvenir parce que celui qui oublie son passé risque de retomber dans les mêmes errements de ce passé. Et vous avez raison de le dire, qu'on a là, en Vendée, la matrice de notre XXe siècle, la matrice de toutes les idéologies meurtrières du siècle et de la solution finale qui a été inventée ici, en Vendée. Donc, effectivement, c'est capital aujourd'hui de se souvenir, de nommer les choses, de les désigner et de lire, même si elles sont difficiles, ces pages qui montrent effectivement comment, de façon savamment orchestrée, on peut vouloir éliminer celui qui ne pense pas comme soi, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, et comment une révolution qui naît dans un bain de sang doit pouvoir revenir sur ses origines pour opérer ce qu'elle voulait promouvoir initialement, c'est-à-dire justement une volonté de réconciliation d'un peuple avec lui-même. Donc c'est finalement cette œuvre-là que ce livre, avec tous ceux qui aujourd'hui font vivre cette mémoire vendéenne, je pense au Puy du Fou évidemment.
Oui, il y a des belles images du Puy du Fou d'ailleurs dans le livre.
Oui, alors on bénéficie effectivement d'une préface très belle de Nicolette Villiers, qui préside le Puy du Fou, ce grand parc historique et touristique à grand succès avec ses 2 millions de visiteurs. Et on bénéficie aussi de toute une iconographie très belle, effectivement, sur ces spectacles qui recréent aujourd'hui l'histoire et l'atmosphère de cette guerre de Vendée, et plus largement de toute l'histoire de France. Ouais.
Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, ça se lit comme un roman d'aventure, je veux dire. C'est pas un bouquin d'histoire où on va un petit peu s'ennuyer avec des dates, tac, 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 voilà, ce qui s'est passé à tel moment. On est emporté, finalement, par le flot de ces paysans emmenés par de grands chefs de guerre, par des héros et des saints. Mmh. Et vous avez fait la part belle, justement, à ces grandes figures de la Vendée militaire. La première personne, finalement, c'est un colporteur. Mmh. Pouvez-nous parler de Catelineau ?
Catelineau, c'est une figure magnifique dont les lecteurs verront effectivement une représentation très belle, avec sa fille accrochée à sa jambe et lui interrogatif face aux paysans qui réclament qu'il devienne leur chef parce qu'il a déjà l'autorité d'un homme sage, d'un homme courageux. Il est capitaine de paroisse et il sait à cet instant que tout va basculer, et dans sa vie, et dans la vie de ceux qu'il emmènerait derrière lui, et dans la vie de sa famille. Effectivement, donc Catelineau, qu'on appelait le saint de l'Anjou, c'est vraiment la figure, une figure magnifique de ce héros malgré lui, qu'ont été l'ensemble de ces Vendéens, peu préparés, sous-armés, mais qui avaient le scapulaire au cœur, qui avaient le chapelet à la main et qui avaient une flamme intérieure qui ne pouvait pas les arrêter, quoi qu'ils sachent qu'ils allaient au sacrifice. Donc c'est une figure magnifique qui ouvre effectivement cette galerie de portraits de chefs vendéens qui sont tous plus jeunes, plus vaillants, plus courageux, plus désintéressés les uns que les autres, plein de panache, d'où effectivement cette plume épique que j'ai voulu aussi emprunter pour que le livre reste accessible, puisse se lire d'une traite, puisse s'emporter avec soi, puisse se lire à haute voix. L'idée, effectivement, c'est aussi rappeler que l'histoire, c'est une chanson de geste, et que la France, c'est le plus beau royaume qui soit après le royaume du ciel. Donc, effectivement, je ne vous cache pas que c'est une histoire passionnée, avant d'écrire un livre, il faut lire et être passionné de ses lectures. Donc, j'ai été nourri de beaucoup de lectures, non seulement sur cette période, mais aussi sur tous ceux qui, non seulement aiment l'histoire, mais savent raconter des histoires. Et je crois que tout ce qui commence par « il était une fois » capte l'attention et donne envie de connaître la suite. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est tout ça que j'ai voulu faire revivre sous ma plume.
Ouais. Alors un grand chef, malgré sa jeunesse, 20 ans je crois, ouais. Henri de La Rojaclin, dont la devise fut la suivante « si j'avance, suivez-moi, si je recule, tuez-moi, si je meurs, vengez-moi ». Devise qui sera reprise par un chef de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, le docteur Daniel Boucher, médecin à Saint-Loup-sur-Touée dans les Deux-Sèvres, donc c'était encore sur les terres de la Vendée militaire. Enfin, revenons à nos moutons. Henri de La Rojaclin, tout jeune homme qu'on est venu chercher là encore chez lui.
Oui, là aussi des destins qui viennent vous chercher dans la cour du logis. Là, c'est vraiment ce qui s'est passé pour lui. Il est il n'est pas l'aîné de sa famille. Son père a émigré et donc c'est lui qui se retrouve chef de famille, chef de la maisonnée. Il revient des Tuileries où le 10 août 1792, il a défendu dans un dernier carré avec un dernier carré de fidèles le roi qui était attaqué par la foule qui avançait. Donc il sait déjà que la République naissante qui est déjà imprégnée d'un esprit de terreur et déjà vicié dans son origine. Et donc, il est prévenu de tout ça. Il s'est retiré dans sa Vendée, les actuels Deux-Sèvres, pour ce qui le concerne. Et on vient dans la cour du logis. Et c'est lui qui, effectivement, fait ce pas en avant. Il a à peine 20 ans. C'est son père, au début, qu'on venait chercher. Il a émigré. C'est donc lui, le chef de famille. Et il va impressionner en un instant par, effectivement, ce sens de l'incarnation, ce sens de la formule, cet art d'être chef. Et donc c'est une figure magnifique, je le peins comme un Achille de la Vendée, comme une fine fleur de chevalerie qui au temps de Jeanne d'Arc eût été son plus proche compagnon. Eh bien il y a un peu de ça chez Henri de La Rojaclin, ouais. Qui est mon préféré, qui est mon plus voisin.
Alors il y a un qui me plaît bien, moi c'est Lescure aussi, qui est un homme... qui n'aime pas la violence, qui lui qui va chercher à calmer hein, parfois les ardeurs des paysans. À un moment, plusieurs centaines de républicains lui doivent la vie sauve. Hein,
tout à fait. Et effectivement, encore une fois, nous devons à la vérité de dire que dans une guerre, il y a des malheurs de part et d'autre et des exactions de part et d'autre. Donc même si, évidemment, il n'y a pas eu de... Enfin, le génocide n'a été qu'à sens unique. En revanche, dans les faits de guerre, donc de cette première période de la guerre de Vendée, des républicains sont évidemment mis en danger par les Vendéens qui les capturent. Ils ont le souvenir aussi hein, du clocher qui brûle, de la ferme qui n'existe plus, des femmes qui ont été éventrées chez eux. Donc... voilà, c'est difficile à vivre. Et donc, effectivement, il faudra parfois le calme, la paix de certains chefs, et Lescure en est une figure magnifique, c'est le saint du Poitou, pour réussir à calmer les ardeurs des hommes et pour essayer d'incarner cette paix intérieure qui a suscité le soulèvement vendéen.
On est ici à Chartres, sur les terres du général Marceau. On rencontre le général Marceau durant cette guerre de Vendée. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Le général Marceau, on peut en dire que... Alors, il a effectivement, il apparaît hein, comme des généraux de cette armée de Vendée. Donc, il y fait une incursion qui ne sera pas...
pas glorieuse, hein, il s'est pris une raclée.
Oui, voilà, alors, qui n'est pas très glorieuse, qui n'est pas très longue. Effectivement, il intervient au moment où vraiment la houle monte très fort. Il aura une... Il y aura ce respect des chefs. Il y a de la grandeur et servitude militaire aussi. Et les militaires, entre eux, se sont reconnus, se sont regardés. C'est vrai, entre Lescure, qu'on évoquait il y a un instant, et le général Quétineau, à Thouars, qui aura été respecté comme ennemi et comme prisonnier. Et c'est vrai aussi chez Marceau, qui sera respecté comme un valeureux combattant, ce qu'il faut lui reconnaître. Il aura d'ailleurs une belle attitude au Mans, où il laisse la vie à une royaliste, ce qu'on aura pu lui reprocher par la suite, mais parce que justement c'est un homme qui reste d'abord un soldat avec l'honneur du soldat, ouais. Un militaire de carrière. Donc voilà, maintenant effectivement il était le général Marceau, l'autre, on peut dire que c'est le revers de la médaille d'Henri de La Rojaclin qu'on évoquait tout à l'heure, oui. de jeunes hommes extrêmement vaillants, extrêmement vigoureux. Lui était de l'autre côté de l'histoire.
Oui. Alors donc, les Vendéens, on le sait, ont perdu la guerre. On peut pas dire que la guerre de Vendée finalement soit terminée à cette époque, parce que si on visite un peu la région, comme quand on visite la Bretagne aussi. Oui. Eh bien, on s'aperçoit au monument aux morts, sur les monuments, que, eh bien, le tribut payé par les Vendéens, par les Bretons, durant la Première Guerre mondiale, est peut-être plus élevé qu'ailleurs.
C'est très juste. Il y a ce qu'on raconte dans ce livre, c'est la Première Guerre de Vendée. Il y aura d'autres guerres de Vendée, donc ça veut dire aussi qu'il y aura donc d'autres mouvements par la suite. Mais ensuite, si on se porte sur notre XXe siècle, effectivement, c'est en Vendée, puis en Bretagne, qu'on compte le plus grand nombre d'hommes envoyés au front et morts au front. La célèbre tranchée des baïonnettes à Verdun est extrêmement émouvante de ce point de vue-là. Il y a là deux mouvements. À la fois, la République est allée chercher ici des hommes qu'elle a envoyés le plus en avant, le plus au front, parce que on ne fait pas d'affront à la République. Et c'est quelque chose qui est resté longtemps, effectivement, ouais. Et encore à cette période-là, où il fallait peut-être que, s'il fallait de la chair à canon, eh bien, tant qu'à faire, ce soit la chair la moins noble aux yeux de la République. Donc, il y a ce premier mouvement-là. Il est assez terrible à évoquer, mais c'est vrai. Mais il y a, dans le même mouvement, un esprit de sacrifice de la part de ce peuple vendéen, puis de ce peuple breton, qui ont fait le choix aussi de, encore une fois, pardonner, et donc de servir la France et de montrer qu'il n'y avait pas d'esprit régionaliste, d'esprit sécessionniste dans leur révolte, mais simplement une volonté de défendre la liberté de conscience. Et donc, lorsqu'il s'agit d'aller au combat et de défendre la liberté, qui de mieux que les Vendéens, que les Bretons, que ces peuples qui en ont payé le prix de leur vie pour être aux avant-postes. Donc, c'est pas pour rien, effectivement, qu'en Vendée, à Mouilleron-en-Parret, on est côte à côte deux grands hommes, à la fois Clémenceau et le maréchal de Lattre de Tassigny, ouais. deux hautes figures de la Vendée, de hautes figures de la France et qui sont issus de cette histoire vendéenne que l'on raconte ici.
Au cœur de la guerre de Vendée, au lieu et grande figure, de Paul Bridier, préfacé par Nicolas de Villiers aux éditions Beaufort. Bon, le livre, on le trouve partout, on le trouve évidemment ici à Chartres, mais dans l'ouest de la France, alors, il se vend très bien.
Écoutez, on est très heureux effectivement d'un lancement sur les chapeaux de roue. Ça marche très bien parce que ça rencontre à la fois un intérêt chez ceux qui connaissent cette histoire et qui sont heureux de la redécouvrir de façon très, très, très illustrée, très actualisée. Et puis pour des curieux, des nouveaux venus qui découvrent là de façon assez accessible une manière de se plonger dans cette histoire qui a quelque chose d'éternel et d'universel, je le disais. Donc oui, c'est en vente à Chartres, dans toutes les bonnes librairies. On sera prochainement à l'Esperluette, après avoir été à la procure pour des séances de dédicaces. C'est en vente dans le Grand Ouest, puisqu'on a des distributeurs nous ont fait confiance et distribuent extrêmement largement ce livre, qui est, nous disent-ils, un succès étonnant. Donc écoutez, on est très heureux de cette aventure qui commence.
Paul, merci beaucoup. Et Peut-être un autre livre en perspective, non ?
Ah bah écoutez, je ne dévoile encore aucun projet, mais effectivement, l'aventure ne fait que commencer.
L'aventure ne fait que commencer.
Voilà.
À très bientôt. Chers auditeurs, restez fidèles au programme de Radio Rancière, la radio qui, je vous le rappelle, rapproche les hommes.